Orinoco. Billets d'humeur ou chronique, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour à toutes et à tous et encore une fois, merci d'être fidèles à ce programme fait d'anecdotes et de questionnements mis en musique, ayant pour seule ambition vous offrir une heure la plus agréable possible. Après vous avoir proposé trois voyages lors des trois premiers épisodes d'Orinoco, l'opportunité d'un déménagement m'a permis de remettre la main sur une vieille boîte à boutons. Boîte à boutons que je tiens de ma mère, qui elle-même la tenait de sa mère, et que je tenterai de vous décrire tant matériellement que sentimentalement. Ce programme sera le récit de souvenirs cachés dans une petite caverne d'Ali Baba, agrémentée d'un peu d'histoire et de musique, souvent aussi vieille et évocatrice que cette boîte et ses boutons. Mais à vrai dire, cette émission ne serait-elle pas aussi le prétexte inavoué de vous proposer une heure de musique produite par un instrument les plus complets et malheureusement relayé souvent à l'accompagnement et cantonné à un style dont il a du mal à s'extraire, le musette, sans que pour autant la grande majorité ne sache donner une définition exacte de ce qu'est le musette. Vous avez compris qu'en parlant bouton et boîte à frissons, seul l'accordéon pouvait nous accompagner durant cette heure. Et je donnerai aussi une part importante à une autre petite boîte à soufflets et à boutons de nacre, le bandoneon. Pour revenir à cette boîte à boutons que je tiens de ma maman, et pour l'histoire, on peut essayer de rappeler rapidement l'origine des boutons qui, au fil du temps, ont été progressivement remplacés par des fermetures éclairs ou fermetures à glissière ou bien encore, pour les plus jeunes, le terme anglais zip, zippé, puis les agrafes, les pressions et autres brides ne nécessitant plus de boutonnière et permettant de fermer un vêtement de manière invisible. Boutons éternels, mais certainement moins en vogue qu'auparavant. J'en veux pour preuve que, c'est amusant, si vous tapez « boîte à boutons » sur Internet, et quel que soit le moteur de recherche, vous tombez sur toutes les enseignes d'électricité et leurs boîtes d'interrupteurs, disjoncteurs, inverseurs et autres boutons poussoirs. J'en suis à me demander si les plus jeunes sauraient me donner une définition du terme « mercerie ». Mais là n'est pas le propos, et revenons ensemble sur les premières traces du bouton vestimentaire dans l'histoire. Je précise vestimentaire car, après les boutons pressoirs électriques et électroniques, la seconde occurrence sur les moteurs de recherche vous parle de l'acné. C'est très difficile de dater précisément l'arrivée du bouton dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est sûr, c'est que dans les départements antiquités orientales, étrusques, grecques et romaines, du musée du Louvre, on trouve de nombreux boutons perforés de toutes matières, en bois, en bronze, en pierre, en terre cuite, même en or, et remontant au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Des fouilles dans la vallée de l'Indus ont permis de retrouver des petits coquillages sculptés et percés de trous. En Chine aussi, on a retrouvé des petites boulettes de tissu ligaturé, ressemblant fortement à des boutons que l'on enfilerait dans un passant rapporté sur l'autre partie d'un vêtement. Tout ça pour dire que le bouton ne date pas d'hier. Petite parenthèse. En préparant cette émission, on me posa la question du boutonnage inversé pour les hommes et pour les femmes. La tradition, toujours en vigueur aujourd'hui, du boutonnage du vêtement masculin, bouton à droite, boutonnière à gauche, et inversé pour le vêtement féminin, remonte au XVe siècle. À la cour, les hommes s'habillent en général seuls. Dans leur majorité droitiers, ils trouvent le boutonnage de droite à gauche plus pratique. À la guerre, portant leur épée sur la hanche gauche, il était important que le vêtement s'ouvre vers l'autre côté afin que l'arme ne s'y coince pas quand elle était tirée rapidement. Par contre, les femmes, qui ont les moyens de s'offrir des vêtements à boutons, alors coûteux, sont servies par leurs femmes de chambre. Elles oscillent plus souvent droitières et donc plus aisé pour elles de fermer une chemise avec les boutons situés à leur droite lorsqu'elles se tenaient face à leur maîtresse. Puis les tailleurs ont adopté et perpétué ces pratiques. Cette explication, je pense, répondra certainement à tous ceux qui se sont un jour posé cette question. Alors, après avoir sommairement rappelé l'histoire des boutons, revenons à cette fameuse boîte autour de laquelle s'articule cette émission. Boîte que je ne saurais dater, mais qui me donne l'impression d'avoir toujours existé car faisant partie de mon familier, et cela depuis ma plus tendre enfance. C'est un coffret que je devais manier avec précaution, car lourd et fragile. Une boîte en céramique fine, de faïence émaillée aux teintes bleu-azur évoquant un coin de ciel où quelques nuages éclaircissent le pourtour. Les côtés, décorés de fleurs peintes à la main, rappellent les couleurs du couvercle sur lequel un oiseau venant se désaltérer de quelques gouttes de rosée déposées sur les pétales d'une belle rose largement épanouie donne un beau relief, facilitant l'ouverture de cette boîte. Plus je regarde cette boîte et plus je me revois enfant, plus je pense qu'il y a au moins trois façons de découvrir les mystères d'une boîte à boutons. Une méthode assez gourmande et plus tactile, consistant à y plongeait directement la main, qui s'enfouit doucement dans un univers coloré et procure des sensations de volupté, donnant à l'enfant un vif plaisir des sens. Puis il nous est donné aussi, avec plus de retenue, de les choisir un par un et de les assortir par couleur ou par forme. Puis la troisième, celle qui me correspond le plus, c'est de les extraire doucement, laissant renaître tous les souvenirs qu'ils évoquent. Peu importe la forme ou la couleur, seule l'évocation importe. La mémoire à ce moment a sorti le bouton à un vêtement, à une odeur, à une personne. Tout remonte doucement, par bribes, comme les miettes d'un passé qu'on aurait confiné des années dans ce reliquaire. Pour évoquer assez rapidement la seconde méthode, celle qui consiste à jouer avec ses boutons, je peux en évoquer au moins deux qui animèrent mon enfance. La première, assez simple, consistait à prendre les boutons comme des petites voitures que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir. Or les rouges étaient des camions de pompiers, les bleus des voitures de police, les gris la benne des éboueurs, puis les autres des voitures ordinaires. Sans parler de ceux que je superposais et qui faisaient des petites maisons autour duquel je faisais circuler mes boutons de couleur. Mais ça ne m'amusait pas longtemps. Ce qui était beaucoup plus drôle, je vous invite d'ailleurs à l'essayer chez vous, c'est ma mère qui me l'avait appris. Prenez du fil de couture que vous doublez ou la ficelle de cuisson, très connue là, pour le ficelage du rôti, choisissez un bouton assez gros et doté de 4 trous, puis passez le fil dans 2 trous opposés et faites un nœud au bout de 60 cm. Certes, tout en vous disant ça, je m'aperçois que ce n'est pas si simple à expliquer et je vous invite à aller sur le site orinoco-podcast.com où je mettrai une photo de ce petit montage assez simple à réaliser. Une fois cette grande boucle de ficelle faite dans laquelle un bouton est enfilé, prenez-la des deux mains droit devant vous et faites tourner le bouton pour qu'il torsade la ficelle. Et à ce moment-là, tirez sur les deux bouts de la ficelle et faites comme avec un accordéon, en tirant et ramenant les mains. Et vous verrez, comme une toupie, le bouton tourne et se met à siffler. Je dois rappeler aussi que c'est avec ces boutons que ma mère m'a appris les couleurs, puis à compter. Mais revenons à la troisième méthode évoquée plus tôt, celle consistant à laisser renaître tous les souvenirs qu'évoquent les boutons, peu importe leur forme ou leur couleur. Si l'on s'en tient à ce regard porté sur le bouton, celui du souvenir qu'il évoque, on fait subjectivement abstraction de la beauté de l'objet. Vous me direz, c'est dommage car il y a des boutons plus beaux que d'autres. C'est vrai, car comme avant lui, le lacet, la broche ou l'épingle, le bouton est devenu assez rapidement un ornement. D'ailleurs, la sobriété et l'austère élégance de la mode espagnole qui influence la mode européenne au début du XVIe siècle eut pour effet de rehausser l'éclat des boutons bijoux du costume d'apparat masculin et féminin. Les boutons peuvent être à la fois décoratif et fonctionnel, ou juste des détails ornementaux, des vestes, des gilets, des robes. Leur valeur dépasse parfois celle de l'habit et témoigne du rang social de celui qui les porte. Mais je vous rassure, dans ma boîte à boutons, pas de boutons en os ciselé ni en or massif. Que de simples boutons. Certains en acre malgré tout. Oh, doux reflet irisé. Ce qui me détourne encore un instant du thème de mon émission et de ma boîte à boutons, car, en parlant de boutons en acre, il faut savoir que mes parents eurent l'opportunité d'habiter Méru, dans l'Oise, dont le surnom est la capitale mondiale de la nacre. Aujourd'hui, un musée a remplacé l'usine pour qu'on n'oublie pas le rôle que cette ville a joué dans la fabrication du bouton. Notons quand même que la maison Mercier, fondée en 1937, reste le leader français dans le domaine du bouton de nacre. Sans eux, le bouton de nacre, avec ses magnifiques reflets et ses irrégularités uniques, que nous apprécions tant, aurait pu disparaître. Car vers 1957, le bouton de nacre a dû faire face au bouton polyester, le bouton en plastique. Une quasi parfaite imitation de la nacre, facile à produire et coûtant surtout significativement moins cher à fabriquer. Mais la nacre, cette matière blanche aux reflets irisés qui se forme dans la coquille de nombreuses espèces de mollusques, nécessite un savoir-faire pour la fabrication d'objets de luxe, savoir-faire perpétué jusqu'aujourd'hui par une poignée de maîtres nacriers, parmi lesquels la société Mercier. Fait assez rapidement le tour de l'histoire du bouton, plongeons ensemble la main dans ma boîte à boutons pour en extraire ces 6 petits boutons verts, percés en leur centre par 4 petits trous. J'ouvre une autre parenthèse car si vous avez l'occasion d'aller sur le site orinoco-podcast.com, vous y trouverez toutes les photos de ces boutons dont je vous parle. Mais revenons sur ces 6 petits boutons verts qui fermaient ma blouse d'écolier. Jugeant certainement à raison que l'ensemble des travaux scolaires depuis la maternelle était souvent salissant, il était d'usage dans les années 50 que les enfants aillent à l'école avec une blouse. Souvent assez sobre pour les garçons, quasiment toujours grise, et parfois légèrement plus gaie pour les filles, de couleur pastel ou des tissu à motifs, souvent des petites fleurs. Mais la mienne était verte. Le but n'était pas d'éviter la discrimination au travers de ses blouses, mais réellement de protéger l'enfant pour qu'il ne tache pas ses vêtements. À la maternelle, il y avait des peintures, puis à la grande école, c'est-à-dire le cours préparatoire, il y avait 2 encriers de porcelaine sur chaque bureau de bois, dans lequel on trempait nos porte-plumes, munis d'une plume sergent-major, plus agréable car plus tendre que la plume Lecoq, Beignol et Fargeon, pour apprendre l'art de la calligraphie. J'appelle ça art, car avec l'apparition du stylo bille dans les années 60, les pleins et les déliés disparurent, pour laisser place à des gribouillis organisés qu'on continua d'appeler l'écriture. Puis il y avait bien le buvard, ce petit rectangle rose de papier poreux et absorbant que l'on glissait entre la main et le cahier, et qui servait aussi à éponger les surplus d'encre pour faciliter le séchage. Mais je vous assure, le bout des doigts des enfants était assez régulièrement aussi bleu que l'encre violette que le maître ou la maîtresse versait dans l'encrier. Tout ça pour dire que le port de la blouse était amplement justifié. Et cette blouse verte était un peu ma fierté, car autant je n'aimais pas l'école, autant j'aimais cette petite blouse que ma mère m'avait achetée sur le marché Roubleau. Elle avait deux grandes poches de chaque côté et une troisième plus petite sur le cœur. Tous avaient une ceinture, moi non. C'était une petite blouse droite, verte comme les prés. Et aujourd'hui, je ne peux dire que merci à mes petits boutons de me rappeler tant de souvenirs. Souvenirs qui s'échappent avec le temps, mais peuvent aussi réapparaître avec les objets qui les firent naître. Puis il y a ces 12 petites boules rouges qui, eux, ornaient une robe que ma mère aimait porter. Celle qu'elle mettait toujours quand elle dansait avec mon père. Oui, mes parents dansaient à la maison, surtout la valse, à l'endroit, à l'envers. J'aimais les voir danser, plus que mon chien Tintin, qui devait penser que mon père faisait du mal à ma mère en la faisant tourner si vite. Ils étaient d'ailleurs souvent obligés de le faire sortir. Puis, quand ils avaient tourné tout leur souffle, ma mère me prenait dans ses bras pour valser avec moi. Plus grand, elle m'a pris à valser, et je n'étais pas peu fier de prendre un instant la place de mon père. Avec cette musique, je la revois tournoyer avec cette petite robe rouge, incandescent, un motif imprimé des petites pétales de fleurs, fermé sur le devant par cette ribambelle de petits boutons rouges. Un tissu si léger qu'on aurait dit de la soie, mais il devait certainement s'agir de coton ou de viscose. La taille était soulignée par une ceinture du même tissu. La taille de ma mère était si fine que mon père pouvait en faire le tour avec ses deux mains. Puis cette robe finit sans doute par s'user ou ne plus aller à ma mère, qui, je m'en souviens, la découpa et se fit un corsage avec le haut. De la ceinture, elle fit un foulard porté comme une petite cravate, plutôt une lavalière. Et comme pour ma petite blouse verte, il ne me reste plus aujourd'hui que ces boutons et tant de souvenirs. Puis, de même taille mais en vert, bleu comme le bleu des agates en cristal naturel, de quartz, comme mes billes et mes calots que je faisais rouler dans le caniveau rue des Prélorets. sphérique et douce au toucher, suspendue dans le vide par une petite queue métallique qui les attachait à un gilet que m'avait tricoté ma mère. Ces boutons ne sont pas comme les autres, ce sont les plus beaux, car c'est ma mère qui les avait choisis pour être assortis aux deux laines dont elle se servit pour me tricoter ce gilet. C'est le gilet avec lequel je suis photographié en classe de cours préparatoire. Photo en noir et blanc, malheureusement, qui ne rend pas le chic de ce petit vêtement. Un gilet dont j'étais si fier car unique, bleu clair et torsade blanche. 4 boutons sur le devant et 2 au poignet, juste pour faire joli. Ce gilet et ses boutons, d'une originalité hors du commun, m'ont tellement marqué qu'ils m'ont fait perdre certains repères. Je m'en explique. Presque chaque année, pour la rentrée scolaire, je demandais à ma mère de me sortir mon gilet bleu. Une fois extrait du fond de l'armoire, je tentais de l'enfiler, en vain. À cet âge, on grandit si vite que c'était évident qu'il n'était plus à ma taille. Alors, un peu triste, je demandais à ma mère de le ranger, pensant sans doute qu'il pourrait un jour de nouveau m'aller. Mais je ne pouvais pas m'enrichir de cette expérience malheureuse, car chaque année, je manifestais le même désir, comme si j'avais occulté la douloureuse expérience de l'année passée. Le pire, je m'en souviens, fut à l'adolescence, je ne sais pas, vers 14-15 ans, où me revint soudain l'idée de remettre ce gilet. Ma mère pensa que je plaisantais et me rappela que je le portais à 6 ans et que quasiment 10 ans s'étaient presque écoulés depuis. Ce que je dus admettre sans qu'elle soit obligée de me le montrer. Mais cette sénilité précoce n'était pas le fruit d'une dégradation intellectuelle avancée ni d'un état pathologique invalidant, non. C'était tout simplement l'égarement provoqué par un attachement quasi onirique. Ce gilet tenait autant de place dans mon imaginaire qu'il en avait tenu quand je le portais. Aujourd'hui encore, il ne me reste plus que ces 6 boutons bleus et les souvenirs qui l'accompagnent. Puis il y a ces boutons en cuir tressés, sur lesquels je ne pouvais pas faire l'impasse, autant pour les boutons eux-mêmes que pour les souvenirs qu'ils me laissent. Ces boutons de cuir marron et patinés sont faits d'un seul brin, d'une seule lanière de cuir. Si vous avez l'occasion de faire des recherches, vous verrez la complexité de cet art du tressage quasi moyenâgeux. Une somme de boucles bien ordonnées, qu'il faut ensuite resserrer petit à petit pour qu'un gros nœud se forme afin de réaliser finalement ce gros bouton de cuir tressé. Boutons qui furent décousus de la vieille canadienne en cuir de mon parrain, Louis Grus, à qui j'ai consacré la première émission de cette saison. Réfugié politique tchèque, mon grand-père l'avait fait embaucher au Gaz de France comme releveur de compteur. Et je le vois rentrer le soir avec sa lourde canadienne en cuir, bien cirée, ainsi que sa sacoche en cuir, elle aussi. Juste pour l'anecdote, comme il parlait cette langue couramment, la direction lui avait proposé à plusieurs reprises des postes à responsabilité comme chef d'équipe pour commencer. Mais son honnêteté intellectuelle, son humanisme, appelez ça comme vous le voulez, lui avait toujours fait refuser ses propositions car, étant célibataire, il estimait qu'il était préférable de confier ses missions et les salaires qui les accompagnaient à un père de famille qui, selon lui, en avait davantage besoin. Voyez comment juste quelques vieux boutons peuvent être évocateurs et sujets de réflexion sur ce qu'a pu être ce vieux monde auquel nous sommes en train de dire adieu. Ce n'est pas nostalgique, c'est presque plus culturel qu'anecdotique que de se réimprégner de ces épiphénomènes qui émaillèrent ma vie, du moins la vie de toute une génération. J'aimerais à ce stade de l'émission ouvrir une belle parenthèse, car comme je vous le faisais remarquer en ce début de programme, boîte à boutons rime avec ce merveilleux instrument qu'est l'accordéon. Mais un instrument voisin de l'accordéon, né lui aussi en Allemagne et inspiré du concertina allemand, a une place importante dans le développement de cette famille d'instruments avant. Instrument que l'on écoute en ce moment, et qui sut donner au tango sa sonorité si caractéristique. Et quand on parle tango, on pense immédiatement à Astor Piazzolla, qui aurait eu 100 ans d'ailleurs cette année, car il était né en 1921. Piazzolla et son bandoneon, à qui j'ai déjà consacré une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site orinoco-podcast. Mais Piazzolla n'était pas, vous devez vous en douter, le seul bandoneoniste argentin. Et ce soir, c'est au travers de quelques thèmes interprétés par de grands bandoneonistes que nous poursuivrons ce programme, en commençant par un thème pour bandoneon sol, interprété et composé par Leopoldo Federico, Che Bandoneon. Il n'y a pas que les hommes et que les Argentins pour mettre en lumière ce petit instrument de la famille des instruments à hanches libres, dont les boutons, encore une fois, sont faits ou décorés de nacre. Une petite Française qui découvrit cet instrument dès ses 5 ans au conservatoire de Gennevilliers sut trouver sa place dans ce milieu assez machiste, et bien qu'ayant été influencée elle aussi par Astor Piazzolla, à qui d'ailleurs elle rendit un bel hommage cette année avec la sortie d'un merveilleux album Louise Jalut Piazzolla 2021, elle sut contribuer à renouveler le tango en abordant des thèmes dérangeants comme celui de la traite des blanches dans les maisons closes de Buenos Aires dans les années 20. Tout cela dans un album portant le nom d'une de ses filles, Francesita, dont on écoute non pas le titre éponyme, mais Claudinette. Thank you. thème que nous offre la bandonéoniste Louise Jahu, extrait d'un double album, Francesita, est un regard moderne sur le tango, sans pour autant renier le tango historique. C'est en parallèle un hommage qu'elle rend au compositeur Enrique Delfino. Projet de Louise Jahu qui émergea de sa lecture du livre d'Albert Londres, La traite des Blanches, où l'auteur décrit la vie des femmes victimes de ce trafic sordide et exploité dans les maisons closes de Buenos Aires en 1926. Sur cet album, sorti en 2018, Louise Jahu est accompagnée entre autres de Thomas Kubitsch à la guitare, Grégoire Le Touvet au piano, Mathias Lévy au violon et Claude Chamichian à la contrebasse. Puis, tout comme j'essaie depuis le début de ce programme de vous présenter l'accordéon au travers et en dehors du musette, j'aimerais sortir aussi le bandoneon du tango et vous l'offrir par l'intermédiaire d'une improvisation de Philippe Olivier, bandoneoniste et compositeur autodidacte, qui mêle musique acoustique et électronique. Thank you. C'est un enregistrement en live où il emporte les spectateurs et vous maintenant dans un voyage sonore, un jeu d'improvisation savamment orchestré entre le musicien et la machine. Le point de départ de cette pièce était de savoir si la machine pouvait, en temps réel, composer les contrepoints qui allaient pouvoir enrober les improvisations jouées au bandoneon. Cette pièce durant près de 20 minutes, j'ai arbitrairement retenu les séquences qui m'ont le plus emporté. Celles qui traduisent le plus le ruissellement peut-être des boutons s'évadant de leur boîte. Je prie donc Philippe Olivier de bien vouloir m'excuser pour le montage que je me suis autorisé et je me tais pour vous laisser en profiter plus pleinement. Encore une fois, un grand merci Philippe Olivier pour ce voyage, pour cette part de rêve aussi que tu nous as offert et que j'ai dû malheureusement écourter. Pour revenir vers ma boîte à boutons, le thème principal de cette émission, je pense que l'on pourrait parler d'une autre dimension de cette boîte et de ses boutons. Car après avoir abordé le côté tactile, c'est-à-dire les toucher, le côté ludique, en faire des jouets imaginaires et surtout l'aspect mémoriel sur lequel on s'est davantage attardé, en essayant de ressusciter les souvenirs qu'ils évoquent, on peut mentionner un autre aspect. Et je vais l'illustrer par une expérience que pas mal de gosses ont peut-être connue. Je me souviens, enfant, j'étais plutôt espiègle, pousser ou escalader les grilles d'une vieille demeure, apparemment abandonnée, et face au bâtiment souvent délabré, en plus d'un léger sentiment de peur, je me mettais à imaginer tout ce qui avait pu s'y passer, les personnes qui y avaient habité, leur vie, depuis quand cette maison était abandonnée, et pourquoi était-elle abandonnée, à quoi pouvait servir cette poulie au-dessus de la fenêtre du premier. Eh bien, ma boîte à boutons, toutes les boîtes à boutons, renferment leur part de mystère. Tous les boutons ne vous évoquent pas systématiquement les vêtements et la personne qui les a portés. La grande majorité, d'ailleurs, sont anonymes, pourrait-on dire. Mais au fond, certains, si singuliers par leur forme ou leurs inscriptions, laissent la place à une grande part d'imagination. Dans ma boîte, à qui ont pu appartenir ces boutons métalliques dorés, frappés du sceau des États-Unis, entourés de deux anneaux concentriques? En les regardant de près, on y voit l'aigle américain aux ailes déployées. Dans ses serres se trouve à droite une branche d'olivier et à gauche un faisceau de 13 flèches. Dans son bec, il retient un ruban où est inscrit la devise « E pluribus enim ». N'ayant jamais eu de famille aux États-Unis, n'étant pas issu d'une famille frappée du sceau de l'esprit militaire, je construis autour de ces boutons toute une histoire, sans vouloir à tout prix coller à la vérité. Et cet autre bouton unique, en forme d'Edelweiss, et incrusté de plein de petites pierres de couleur, pourquoi y en a-t-il qu'un seul? Comment est-il arrivé là? Alors, je ne vais pas vous ennuyer davantage en partageant toutes mes réflexions et interrogations au niveau de ma boîte à boutons, mais croyez-moi, si vous pouvez développer et encourager chez vos enfants ces capacités à s'offrir du rêve et de l'imagination, vous pourrez peut-être les soustraire à un mal du siècle, l'ennui. Car, comme le disait Schopenhauer, la vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Alors, si pour la souffrance souvent engendrée par le désir, nous ne pouvons pas faire grand-chose, car partagée par la très grande majorité de nos concitoyens, faisons au moins l'effort pour se soustraire à l'ennui, afin d'éviter qu'il ne devienne familier. Thank you. Certains me demandent d'où je tiens cette imagination. Question à laquelle j'ai du mal à répondre, mais elle a au moins le mérite de me permettre de m'exprimer sur les vertus de l'imagination. Car si notre système cérébral nous permet de percevoir une image projetée sur la rétine, mais aussi d'en comprendre le sens, il est également capable de produire des images mentales, en l'absence de toute réalité extérieure. Il est de bon ton de penser que l'imagination est liée à la créativité, à l'originalité, thèse défendue par de nombreux psychologues. Moi, j'accorderais une vision plus étendue de l'imagination. La preuve en est que lorsqu'on vous raconte une histoire ou un fait divers auquel vous n'avez pas assisté, vous faites appel à votre imagination pour la comprendre. Mais l'imagination va plus loin que de se représenter mentalement ce que sont ou ont été les choses. Elle peut aussi se représenter ce qu'elle aurait pu être. Contrairement à ce que pensait Freud, et plus proche de ce qu'écrivait Paul Harris, je dirais que l'imagination ne domine pas la pensée de l'enfant au début de sa vie, mais qu'elle émerge progressivement. Et les parents jouent un rôle important dans la formation de l'imaginaire de l'enfant. Et la réponse à la question initiale « d'où je tiens cette imagination ?» trouve peut-être sa réponse dans l'investissement mis en œuvre par ma mère qui, tous les soirs, me racontait des histoires. En préparant cette émission, j'ai aussi pensé au film d'Orson Welles, Citizen Kane, certainement un des meilleurs films de tous les temps, où l'on cherche à résoudre le mystère du mot prononcé par Kane juste avant de mourir, Rosebud, bouton de rose. Et ce mystère reste caché jusqu'à la dernière image du film qui nous montre la luge avec laquelle il jouait enfant. Et ce souvenir qui pourrait sembler un détail dans la vie de ce magma américain est la seule chose qui sort de son dernier souffle de vie. Je pense qu'on a tous un Rosebud, qu'on a tous sa boîte à boutons. Un ami à qui je parlais de cette émission en préparation m'avoua que sa boîte à boutons, c'était des petits cyclistes en métal. Rares objets qu'il conservait sans nostalgie, mais comme un lien, un souvenir à une petite enfance, à ses parents, au Tour de France cycliste, qui avait à l'époque un impact retentissant. Dans les années 50, on était tous fascinés par les exploits de ces mercenaires de la route. Bien que la télé et les images n'existaient pas comme aujourd'hui, seule la radio et les journaux retraçaient les prouesses du Suisse Freddy Kubler, du Belge Jean Francard, du Luxembourgeois Charlie Gaulle, de l'Espagnol Federico Bahamontes, dont les scénarios étaient toujours imprévisibles. Puis, les Français dont on était si fiers, Raphaël Gimignani. Mon premier petit vélo fut un Raphaël Gimignani. Louison Bobet, qui, après s'être retiré de la course, ouvrit un magasin de vêtements, avenue de la République, à Fontenay-sous-Bois, à quelques centaines de mètres de chez mes parents. Puis Jacques Anquetil, qui remporta 5 fois cette épreuve. Eh bien, quand il reprend ses petits cyclistes, toutes ces choses lui reviennent et d'autres plus intimes encore. Un autre ami dont je vous ai parlé dans l'émission de juin dernier sur la flânerie historique et musicale dans le 2e arrondissement de Paris, me faisait remarquer que cette émission lui faisait penser à Humberto Maturana, un philosophe chilien qui vient de décéder en mai de cette année et qui a beaucoup produit sur l'autopoésie et l'autocréation. Pour faire simple, je reprends les propos de Johannes, les formes, matières et usages des boutons varient en fonction des expériences que les utilisateurs en font. Il n'y a pas un seul bouton générique reproduit à l'infini, mais des variations infinies qui survivent ou disparaissent. Moi, je ne suis pas le seul à posséder ces boutons, mais le seul à y associer ces souvenirs, cette poésie. L'histoire de mes boutons naît à un moment que je choisis et qui n'est ni le début de leur histoire ni leur fin. Je ne vais pas énumérer ce qu'est la boîte à boutons de chacun d'entre vous. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons presque tous ces reliques auxquelles nous tenons, tant leurs souvenirs sont évocateurs. Si vous tenez de vos parents ou grands-parents quelques bricoles, n'omettez pas de les transmettre et de les partager avec ceux à qui vous tenez.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beng.
Comme je vous le disais précédemment, si l'opportunité vous est donnée d'aller sur le site orinoco-podcast.com, vous pourrez bien sûr réécouter cette émission, la partager ou la commenter, mais aussi voir en photo l'ensemble des boutons dont je vous ai parlé, ainsi que cette merveilleuse boîte qui servit de thème à ce programme. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, portez-vous bien.